L'onde du bois, une chronique de Lionel Ripaud.
Bonjour Lionel, merci d'être avec nous donc pour une 11e chronique L'onde du bois. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler plus longuement des tempêtes que tu as évoquées lors de ta chronique L'onde du bois numéro 7. Tu vas nous parler de ces tempêtes qui ont marqué l'histoire forestière de la France. Et puis, on peut dire que cette chronique tombe à pic avec les rafales de vent qu'on a eues ces derniers jours sur le plateau.
Ces derniers temps, ça décoiffait plutôt pas mal. Vendredi et samedi dernier, on a eu quand même sur les sommets du plateau des rafales à 100 km/h. Je trouve approprié que l'on reparle brièvement de l'élément air, de ses déplacements sur les cimes des forêts et de ses conséquences en forêt à travers cette chronique, donc sur le vent en forêt. Alors, on va parler de ces mouvements d'air en forêt, des conséquences que le forestier doit prendre en compte dans la gestion des peuplements forestiers, puis en se rappelant des tempêtes, ces catastrophes naturelles majeures en France, des plus proches de nous et donc des plus mémorables aux plus anciennes, nous aborderons une question d'avenir importante sur l'évolution de ces phénomènes météo par rapport au réchauffement climatique.
Alors pour commencer ce retour sur les tempêtes marquantes de 1999, c'est vrai que je m'en rappelle bien de ces quelques soirées éclairées à la bougie, et les plus de 25 ans s'en souviennent bien aussi.
Et oui, et moi je me souviens des craquements des arbres et des éclairs que les fils électriques faisaient en se touchant. Voilà maintenant bientôt 23 ans que deux tempêtes exceptionnelles ont traversé la France d'ouest en est, laissant derrière elles de nombreuses victimes et des dégâts considérables. La forêt française a pour sa part payé un lourd tribut. 500 000 hectares touchés, 140 millions de mètres cubes de bois abattus ou cassés, soit environ l'équivalent de 3 années de production biologique. Cette catastrophe naturelle a provoqué un réel choc économique et psychologique en détruisant le capital forestier et en déstabilisant brutalement les marchés du bois. Les dommages directs au patrimoine forestier ont ainsi été évalués à 6 milliards d'euros.
Et donc toi, Lionel, tu étais déjà en forêt à l'époque ?
Maïline, j'étais à l'époque en BEP, à l'école forestière de Creny, où j'apprenais à travailler sur les chantiers de bûcheronnage et de sylviculture. En février 2000, j'étais en stage à l'ONF, au sein d'une équipe d'ouvriers, et pendant toutes les périodes de stage et de travaux pratiques, on n'a pas arrêté de façonner et d'éblayer les arbres cassés ou tombés par les tempêtes. On appelle ces types d'arbres des chablis.
Alors j'imagine que c'est quand même super risqué de travailler au sol parmi tous ces arbres en micado, ils peuvent te tomber sur la tête à n'importe quel moment.
Oui, alors effectivement, il faut vraiment faire attention à ce qu'on voit, mais aussi, et là c'est surprenant, à ce qu'on ne voit pas. Je travaillais en équipe avec des très bons bûcherons qui connaissaient bien les risques et ne les sous-estimaient pas. Ici, le travail en équipe est indispensable. L'objectif était de couper les chablis déracinés en les libérant de leurs grosses galettes de terre et de rochers, emprisonnés dans les racines, avec donc beaucoup de tension ou de compression, et également couper les arbres cassés par moitié, donc on appelle ça des chandelles, dont la tête, ici qu'on appelle volie, était encore attachée ou non. Ces arbres sont techniques, car lorsqu'on les abat, ils peuvent partir dans n'importe quelle direction si on ne s'y prend pas bien. Et puis, ce qui était compliqué, c'était l'enchevêtrement de toutes les têtes, de tous les houppiers des arbres, avec le risque de libérer des tensions et de se faire fouetter par une branche. Dans tous les cas, le bûcheron à pied doit travailler en équipe, avec du bon matériel, des bons équipements de protection individuelle et avec un engin en soutien, type tracteur forestier, débusqueur ou un porteur. En fait, il faut surtout que dans son état d'esprit, le bûcheron reste humble et anticipe ses déplacements et ses actions. En 2009, après Clos, dans les Landes, beaucoup de parcelles ont été nettoyées en coactivité, bûcherons et abatteuses. Le bûcheron libérant les souches des tensions et compressions très importantes, permettant ensuite à la batteuse de récupérer l'arbre, de le façonner et de le dégager rapidement des zones dangereuses.
Oui, donc on imagine que c'est très technique l'exploitation de ces chablis. Et maintenant, donc, en connaissant bien les risques, j'imagine que les bûcherons sont mieux informés justement de ces dangers et qu'ils connaissent, qu'ils ont appris des techniques particulières.
Oui, c'est en cours. On informe chaque année nos apprenants en leur faisant un cours sur l'exploitation des chablis avec tous les points de vigilance à ne pas oublier. Depuis une dizaine d'années, il y a aussi le dispositif du certificat permis tronçonneuse qui permet de former en continu les professionnels et notamment le niveau 4 qui est le niveau le plus élevé et qui correspond à la formation et à l'évaluation sur le terrain en reproduisant des situations de peuplement après tempête. Pour pouvoir travailler dans ces types de travaux, il faut déjà avoir un bon niveau en tronçonneuse et faire preuve de vigilance et d'attention pour soi et pour les autres.
D'accord. Alors le vent en forêt, on l'a compris, cause pas mal de mal et de difficultés hein, pour nous les humains. Mais comme tout élément, l'air, le vent peut aussi avoir des bienfaits, non ?
Ah, forcément, oui, oui. Moi, je me souviens, par exemple, d'un colloque. Alors, c'est des réunions en forêt avec ProSylva, par exemple, l'association de forestiers ProSylva. On était en forêt de châtaignier, dans le PNR Périgord-Limousin, et nous avions parlé de l'importance de l'aération dans les peuplements de châtaigniers pour augmenter les flux d'air et donc de circulation de certains spores pathogènes pouvant entraîner l'apparition de chancres. Hein, c'est des maladies qui se forment sous l'écorce et qui grossissent et font doucement éclater de l'intérieur les fibres du bois, ce qui tue toute la partie située au niveau supérieur de l'arbre. Le principe exposé consistait en fait là à enlever certains arbres pour ouvrir plus le peuplement et améliorer la circulation de l'air. Soit dit en passant, que le forestier prend toujours en compte l'exposition de sa forêt au soleil et au vent dominant. Comme quoi, ici, les éclaircies ne servent pas uniquement qu'à amener de la lumière, mais également à augmenter la circulation de l'air dans le peuplement. Le vent est également pris en compte par le forestier quand il va déterminer le régime et même la composition du peuplement forestier. En effet, un peuplement résineux a plus de prise au vent qu'un peuplement feuillu, qui n'a plus ses feuilles en hiver, et un peuplement géré en futaie irrégulière présente des arbres d'âge différents et donc de hauteurs différentes, ce qui forme des aspérités dans la canopée et, en quelque sorte, absorbe mieux les vents dans le peuplement qu'un peuplement régulier, dont les arbres ont le même âge et dont les peuplements qui forment un effet de bloc peut être plus soumis à des effets dominos lorsque le vent frappe. Le vent, bien sûr, participe à la dissémination aussi des pollens d'arbres. C'est ce qu'on appelle l'anémophilie. Et en forêt, la plupart des essences sont anémophiles. Sans le vent, il n'y aurait pas de production de graines et la régénération serait alors beaucoup plus limitée. Enfin, pour l'anecdote, et parler d'un vent positif aussi en forêt et d'un point de vue aussi culturel, je peux vous présenter l'association Vent des Forêts, qui est un centre d'art contemporain d'intérêt national et qui affirme depuis 24 ans la rencontre fructueuse du monde rural et de l'art contemporain. Situé au cœur du département de la Meuse, en région Grand Est, Vent des Forêts est porté depuis 1997 par une association qui fédère 6 villages agricoles et forestiers. N'hésitez pas à aller voir leur site internet sur ventdesforêts.com.
Super. Et alors tout à l'heure, tu parlais justement de nous présenter les perspectives sur l'évolution de ces tempêtes par rapport au changement climatique. Est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Oui, en fait, on entend souvent qu'avec le réchauffement climatique, le nombre de tempêtes va augmenter. Alors en fait, d'après Damien Altendorf, expert nature et climat, on ne distingue aucune tendance climatique significative sur le territoire métropolitain. Et ce, aussi bien en termes de fréquence que d'intensité des tempêtes. On remarque par contre une modulation décennale notable qui concrétise la mobilité propre au système océan-atmosphère. Ainsi, certaines décennies sont naturellement plus tempétueuses que d'autres. Selon Météo France, les études actuelles ne permettent pas de mettre en évidence une tendance future notable sur l'évolution du risque de vents violents liés aux tempêtes. Les projections ne montrent en effet aucune tendance significative de long terme sur la fréquence et l'intensité des tempêtes, que ce soit à l'horizon 2050 ou à l'horizon 2100. Toutefois, même si la fréquence et l'intensité des tempêtes n'évoluent pas ou peu, ce qui rejoint le rapport de l'ONERC en 2018, eh bien, à puissance égale, leur impact sera plus important. En effet, une atmosphère plus chaude peut contenir plus d'eau et donc s'associer à des pluies plus intenses. Pour résumer, en fait, à l'horizon 2050 ou 2100, et à l'échelle nationale, on aura à peu près la même fréquence de grosses tempêtes, mais on sera plus souvent exposé à des phénomènes localisés de forts mouvements d'air juste avant et pendant, hein, d'air et d'eau pendant les orages. Et cela, c'est très important à prendre en compte pour les forestiers parce que ça fait quand même de la casse.
Et oui, on le disait tout à l'heure, hein, l'air détruit, mais l'air porte la vie, porte le pollen. Merci Lionel pour toutes ces explications.
Ouais, merci.
Tu peux peut-être nous proposer une petite conclusion.
Ah bah alors pour conclure, on pourrait tous chanter en chœur, Maëline, vent frais, vent du matin.
Vent qui souffle au sommet des grands pins.
Et on reviendra ensemble sur ces chroniques des éléments. Hein, ça peut être une idée de développer justement la forêt par rapport aux autres éléments, l'eau, la terre et le feu. Mais en attendant, et comme je vous l'avais promis, la semaine prochaine, la chronique L'Onde du Bois vous emmènera chez un luthier de Haute-Corrèze, Mathieu Mailloux, qui nous accueillera, moi et Raphaël, pour nous parler de ses créations et de sa passion du bois et de la musique. En attendant d'écouter ces instruments en bois à cordes frottées ou pincées, et pour rester dans la thématique du vent, je vous promets que ça va bouger dans notre merveilleux pays. Allez, chères auditrices et chers auditeurs forestiers, restez dans le vent et accrochez-vous.
Alors Lionel, on te retrouve cette fois-ci, non pas lundi, mais mardi prochain.
Très bien, avec plaisir.
Toujours. Pour écouter justement ce super reportage avec ton ami luthier. On a hâte. En attendant, on se quitte encore une fois en musique, avec un morceau que tu as choisi.
Et voilà, c'est Boogie Wonderland de Earth, Wind & Fire.
On écoute ça tout de suite.